Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse à 8h40 aujourd'hui, c'est avec Thibaut Prébet. Bonjour, économiste indépendant à côté de vous, Stéphane Lévy, stratégiste chez Irivest IM. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. On a plein de sujets ce matin. Je commence avec Binance quand même et cette annonce qui n'aura pas donc son agrément, c'est MiCA, le nom de l'agrément en Europe. Étienne, oui. On pourra continuer quand même à trader, mais on pourra garder ses fonds sur la plateforme.
À partir du 1er juillet, vous ne pourrez plus acheter via cette plateforme Binance. Par contre, vous pourrez continuer à vendre vos positions et récupérer votre argent. Il faut bien le souligner, les clients aujourd'hui de Binance peuvent récupérer leurs fonds. La plateforme n'a pas fait faillite, loin de là. C'est juste qu'elle a besoin d'un agrément européen, MiCA, pour pouvoir continuer à opérer en Europe. Et ils n'ont pas réussi à avoir cet agrément pour l'instant, puisque encore hier, les dirigeants auprès de l'agence Reuters ont bien souligné qu'ils réfléchissaient à d'autres solutions. Ils étaient passés par la Grèce, ils avaient déposé un dossier. Finalement, au dernier moment, ils l'ont retiré. On ne sait pas pourquoi. Bon. Potentiellement qu'il n'était pas assez solide pour pouvoir aboutir.
Alexandre Zachenko mettait en avant une des théories qui était que c'était Christine Lagarde qui avait demandé à ce que Binance n'ait pas l'agrément à cause des stablecoins poussés par ce type de plateforme qui font concurrence à l'euro numérique. Vous dites que ce n'est pas une bonne théorie, Thibaut ?
Ouais, ça, moi j'aime bien le complotisme, ça fait des belles histoires pour démarrer, c'est toujours complètement con. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui 187 prestataires sur 117 dans les prestataires sur les actifs numériques qui ont été agréés. Donc il n'y a quand même pas non plus un raz-de-marée à refuser. On parle d'une société qui a été condamnée aux US, qui a pas donné satisfaction sur les sujets anti-blanchiment. Donc, on est quand même dans un truc qui est assez spécifique. Si des acteurs beaucoup plus petits, moins structurés y arrivent tous, c'est qu'il y a un sujet qui est un peu intrinsèque. En revanche, si le marché allait très bien, on se dirait, bon, on passe sur le numéro 2, en fait, on s'en fout. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une logique de la recherche du relais de croissance numérique qui s'était beaucoup reportée sur le Bitcoin, qui a complètement changé vers l'IA, au point que la crypto intéresse quand même de moins en moins. Et donc là, c'est vrai que ça vient un peu dans une actualité un peu lourde. Donc c'est quand même pas terrible pour l'écosystème Bitcoin de manière générale.
Bon, dans l'actualité également, ce dollar quand même qui monte, Étienne, jour après jour, c'est pas très bon pour nous, notamment pour notre achat de pétrole.
Non, c'est pas très bon pour le pétrole qui est repassé certes cette nuit sur ses niveaux d'avant-guerre du 27 février, 72 pour le Brent, 70$ pour le WTI. Mais souvenez-vous, on était à 1,17 sur l'euro-dollar en février, on est ce matin à 1,13. Et puis c'est également une mauvaise nouvelle pour l'once d'or qui est repassé sous le cap symbolique des 4000$, mais également pour le Bitcoin qui là aussi a cassé les 60 000 brièvement cette nuit.
Stéphane Lévy, on a changé de monde là en quelques jours. Dollar fort, Brent qui repasse aux 70, l'or qui redescend, le Bitcoin sous les 60 000.
Ouais, ça va vite. Les événements effectivement se succèdent à une vitesse assez hallucinante. Alors bon, concernant le dollar, une fois finalement comme souvent, rappelez-vous, il y a 6 mois, il y a 12 mois de ça, le consensus était assez unanime. C'était très baissé sur le dollar et on avait prévenu que Monsieur Warsh, le nouveau président de la Fed, avait un bien un peu plus orthodoxe qu'on ne pouvait imaginer. On pensait que c'était quelqu'un qui était complètement dans les mains de Monsieur Trump. Mmh. En fait, il n'en est rien. Et sa première réunion monétaire a quand même pas mal secoué. Il a quand même annoncé des choses assez fortes. Il a mis fin au fameux principe assez récent quand même de forward guidance, qui laisse quelque part une place plus forte au marché. Et la Fed aujourd'hui a abandonné donc tout biais et toute projection sur les taux. Et par ailleurs, il a fait quelque chose assez rare finalement, un certain constat d'échec. Sur la politique mise en œuvre par la Fed depuis 5 ans, qui avait été dans l'incapacité quelque part de juguler l'inflation. Donc le marché a pris ça comme, un ton au quiche, pas du tout accommodant, et ça a eu pour conséquence de faire monter les anticipations de hausse des taux de la Fed, et du coup le dollar est monté. Nous, on n'est pas tellement convaincus que la Fed va monter les taux, pour être honnête, et les choses pourraient vite évoluer dans l'autre sens. Pourquoi ?
Donc finalement, c'est pas si faucon que ça, quoi.
Non.
C'est une colombe déguisée en faucon déguisée en colombe. C'est ça. Compliqué.
En fait, c'est un jeu billard à plusieurs bandes. Oui. Voilà. Donc le sentiment, c'est qu'il est peut-être en train un petit peu de doucher l'enthousiasme, parce que là, en ce moment,
mais il va pas monter les taux.
Ce qui se passe, objectivement, avant de revenir à des considérations peut-être un petit peu plus cohérentes avec le niveau d'endettement des États-Unis et la baisse profonde des break-even d'inflation, c'est-à-dire ce que le marché anticipe en termes d'inflation. Il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a un mois et demi, l'inflation anticipée dans un an aux États-Unis, c'était 5,5. On est à l'heure où je parle, on est descendu à 1,5. Donc on n'est pas
1,5.
Oui, le break-even d'inflation, c'est-à-dire ce que l'on.
Je pensais que vous alliez me dire 3 ou
non. Non, non, non. Je ne parle pas d'un consensus économique. Non. Je parle d'une donnée de marché dans lequel les investisseurs.
Donc l'inflation c'est fini pour.
Alors l'inflation c'est fini. L'inflation c'est fini aujourd'hui.
Oui.
Elle était, je veux dire, mortifère il y a un mois.
Thibault.
Ah, moi, je suis pas du tout d'accord parce que je séparais complètement Kevin Warsh du reste du board. C'est-à-dire que Kevin Warsh, c'est le méchant. Et pour moi, c'est de la trumpisation pure et dure. Mais souvent, quand il y a un grand méchant, il y a une résistance qui s'est mise. Et c'est les autres membres du comité de la réserve fédérale
qu'il faut voter quand même,
qui ont monté leurs anticipations, ce qu'on appelle des dots de hausse de taux. Mais excusez-moi, quand je vois ce que fait Kevin Warsh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le communiqué avec toute l'analyse économique et il barre tout en rouge. C'est la définition de Trump. Il remplace par We will deliver. Ce qui est quand même du pur trumpisme. Hein. C'est t'inquiète, on gère, avec zéro argument derrière. Ensuite, il a dit dans le communiqué de presse que toutes les données économiques qu'ils avaient étaient traditionnelles et qu'ils étaient ouverts à d'autres types de données économiques. Alternative fact, c'est quand même trumpisme vers 1.0. Quoi. Donc moi, je trouve qu'il y a, au contraire, plutôt une dérive trumpiste. Il a bien rappelé qu'il ne s'intéressait pas à l'inflation, mais aussi à l'économie. Donc il cherche plein d'excuses pour ne pas monter les taux. Là où le marché a été un peu douché sur le coup, c'est plutôt que tous les autres membres du board de la réserve fédérale ont dit « Mais attendez les gars, il y a quand même de l'inflation, il faudrait remonter les taux. » Donc je pense qu'au contraire, on arrive peut-être vers une rupture entre Dark Vador, Warsh et la résistance. Et ce qui va se passer va être intéressant. Et là où je suis plutôt d'accord, en revanche, c'est que je ne pense pas qu'ils vont monter les taux. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a une scission au sein du board avec un niveau d'information, de transparence qui a énormément baissé, ce qui pour moi est strictement une mauvaise nouvelle pour les marchés.
Mais on rappelle qu'il faut, Étienne, il faut voter. Enfin, c'est pas Kevin Warsh, il décide pas du tout seul. Hein. Enfin, c'est comme la BCE.
Non. Il y a des membres votants qui se réunissent à chaque réunion.
Bien sûr.
Et il va falloir convaincre l'ensemble du board. Mais on est dans un exercice de communication qui, pour l'instant, fonctionne avant la prochaine réunion du mois de janvier et surtout avant Jackson Hole, hein, puisque c'est surtout là où Kevin Warsh pourra donner un peu plus sa vision de sa politique monétaire, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'a quand même pas dit grand-chose. Hein, et
il a barré plein de trucs.
Si je comprends bien, il n'y a pas de vision.
Il a barré plein de trucs. C'est-à-dire, la forward guidance, c'est un des outils de stabilisation du marché. On voit là ce qu'on
regarde. Mais il a dit,
ce n'est
pas mon travail de stabiliser les marchés.
Il a dit, yo, on se voit toutes les 6 semaines, c'est suffisant comme info. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, toutes les 6 semaines, ça va, les gars.
Depuis que vous êtes économiste indépendant, vous avez changé de vocabulaire.
Pas du tout. C'est juste que vous étiez déshabitué.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est aussi Kevin Warsh, le président de la Fed, qui a changé de vocabulaire. Je suis désolé. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui vous parle d'alternative facts et qui répond « we will deliver » en fin de comité, enfin, faut se rendre compte du délire. Alors après, effectivement, c'est incarné. C'est toujours comme ça, c'est incarné. Je vous rappelle que Jean-Claude Trichet est coupable d'avoir fait des hausses de taux en 2008-2011. Tout le monde lui met sur le dos. Mario Draghi, il était au board, il a voté pour. Mais tout le monde dit Draghi, il est très bien et Trichet, il est nul. Donc, on est dans cette logique, de toute façon, toujours de... Mais il y a quand même un poids fort de celui qui parle. Donc, il a plus de poids que les autres. Mais ça reste néanmoins une discussion.
À la fin, Stéphane Lévy, je reviens sur les questions d'inflation. Vous la voyez évoluer comment, vous, l'inflation américaine?
Alors, l'inflation américaine, de quelle inflation parle-t-on?
C'est pas... On a le chiffre cet après-midi, hein, c'est ça, Étienne?
Oui.
Hein ouais.
Mais...
Alors, sur l'inflation, évidemment, bon, il y a deux types d'inflation. Hein. Il y a l'inflation, je dirais, headline, l'inflation globale qui prend en compte les prix d'énergie. Et là, je vous avoue que c'est très lié à la situation géopolitique. Et personnellement, je pense que je n'ai pas une expertise très forte. En revanche, sur tous les aspects core inflation, on est structurellement engagé sur des niveaux d'inflation core qui devrait rester relativement soutenu et bien au-delà des standards qu'on avait pu observer depuis la période de Lehman, en fait. Et ça, c'est évidemment un régime de marché qui a changé, qui en réalité, c'est un phénomène qu'on observe depuis 2020, on est rentré définitivement dans un régime plus inflationniste. Alors certains pourraient dire que c'est en contradiction avec... le choc de productivité lié à l'IA, qui est une source extrêmement déflationniste, c'est pas en tout cas ce que l'on constate aujourd'hui.
Ça nous fait enchaîner sur Micron. On redit les résultats hier, Étienne, ça s'est très bien passé en après-marché.
Plus 14% en après-bourse, 28 milliards de profits, c'est 20% au-delà des attentes des analystes. Hein, donc une nouvelle fois, le consensus a largement sous-estimé ses profits. Le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour cette année. Hein, ils disent le carnet de commandes est plein, pas de pénurie avant 2027, voire même fin 2027. Et Qualcomm, de son côté, qui tenait sa journée investisseur, a dit « nous, on relève nos prévisions jusqu'à 2029 ». Donc certes, on a des profits qui sont en forte hausse, mais visiblement, le marché en veut encore. D'autant plus qu'en fait, les progressions, visiblement, n'ont pas encore suivi la vitesse à laquelle ces profits vont. C'est-à-dire que le titre a fait x3 en l'espace d'un an, x9 en l'espace... x3 depuis le début de l'année, x9 en l'espace d'un an.
On ne sait plus.
Mais les profits vont plus vite que la progression du cours de bourse.
Thibault.
voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ça reflète un nouveau monde économique, en fait, hein, qui a complètement vrillé sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que l'histoire économique moderne, c'est des industriels qui gagnent pas d'argent en faisant des voitures, des ordinateurs, etc., pendant que les prestataires de services, que sont les GAFAM, et même chez les industriels comme Apple, c'est plus le service, ou dans d'autres, le cloud, qui explosent. Donc, en fait, on fait du hardware en gagnant pas d'argent et tous ceux qui l'utilisent se gavent. Et là, on a une inversion historique parce qu'il y a tellement, de compétition sur l'IA, de besoin d'investissement, que ces boîtes ne gagnent pas d'argent, au point qu'on commence à se demander s'il y a un vrai modèle. Mais tous ceux qui fournissent les biens, donc la mémoire dont on a besoin pour l'IA, se retrouvent, on le voit pour Nvidia, on le voit pour Micron, avec des résultats monstrueux, des quadruplements de chiffre d'affaires, ce qui est dingue, ce qui se fait par un effet prix, puisqu'en réalité, on voit par exemple qu'on est passé de 37 à 84 de marge brute, ce qui est délirant pour des biens industriels, et sur une société dont le chiffre d'affaires n'avait pas bougé globalement sur une dizaine d'années, hein, puisque en 2024, on a fait moins qu'en 2018, qui se retrouve à x5. Donc ce qui est intéressant, c'est que on est en une phase très intermédiaire, où il y a une course en avant, les prestataires industriels ont, pour une fois, la capacité dans un monde particulièrement récession démographique de pousser beaucoup, et tout le monde est obligé de payer, et ça leur sort des résultats dingues pendant que les utilisateurs ne gagnent pas d'argent. Donc il faut savoir que c'est une anomalie, c'est toujours une phase de transition, jusqu'à ce que soit il y ait de plus en plus de producteurs, soit la demande commence à se calmer, et donc toute la question que se pose le marché, c'est combien on paye une boîte qui est dans une phase incroyable, qui est temporaire, mais quand on voit le temporaire de Nvidia, ça peut gagner beaucoup d'argent en temporaire. Ouais. Et donc c'est une donne pour les marchés sur les boîtes industrielles qui est nouvelle et intéressante à analyser.
Stéphane Lévy.
Oui, je partage les propos de Thibault. Ce qui se passe est assez impressionnant. Alors, ce qui est un peu gênant pour l'opérateur de marché, pour l'investisseur aujourd'hui, c'est la dichotomie qu'on a entre, un regard purement bottom-up, qui est plus, par le bas, valeur par valeur, qui, en agrégé, montre des très belles progressions de résultats, mais c'est très, très, très lié à l'IA. Et, objectivement, une photographie macro qui est pas très emballante. Donc, je partage donc l'avis, c'est toute la difficulté sur... aujourd'hui, c'est d'appréhender la différence, de rythme qu'il y a entre cycle industriel et cycle boursier. J'entends beaucoup une expression qui me fait peur en ce moment, c'est « cette fois, c'est différent ». Moi, j'ai commencé ma carrière, je suis un millénial de l'asset management. J'ai commencé en pleine bulle des années 2000. Et je vois des phénomènes qui ressemblent beaucoup.
Sur les télécoms, notamment. Enfin, ça ressemble à ça.
À l'époque, toutes ces valeurs dot-com, toutes les valeurs Internet. Et en fait, on me dit, cette fois, c'est différent parce que, effectivement, ces boîtes gagnent beaucoup d'argent, ont un modèle économique, alors les pelles et les pioches, on parle là de, effectivement des semis essentiellement, y a un moment où la réalité économique effectivement va rattraper, et là où il y a une bulle à mon sens, c'est une bulle des earnings et non pas une bulle des valorisations.
Ça va vous faire des bons débats pour Good Morning Market, Étienne, sachant que quand même le Nikkei vient de clôturer en hausse de plus de 4%.
Sur un nouveau record, c'est vrai que l'ensemble des indices asiatiques sont sur des plus hauts grâce à ces valeurs liées aux semi-conducteurs. Bon, nous, on le verra dans un instant, la Bourse de Paris devrait ouvrir stable, parce que malheureusement, on a assez peu de valeurs liées aux semi-conducteurs. L'Eurostox devrait faire un peu mieux grâce à ASML, c'est la plus grande capitalisation européenne. Le titre est en hausse de 5% en préouverture.
On se retrouve demain. Merci à tous les deux d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie.